Tae Chris est un sportif de très haut niveau et également un entrepreneur hors pair. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, c'est tout simplement le triple champion du monde de roller sur rampe, vainqueur des X Games, vainqueur des Gravity Games. Il est le sportif le plus titré de l'histoire des sports extrêmes. Il compte un palmarès hors norme avec plus de 75 victoires, 109 podiums atteints, auxquels s'ajoutent de multiples records du monde obtenus dans le monde du roller. Parallèlement à sa carrière de sportif, Tae Chris est animateur de télé, également consultant dans les médias, il intervient aussi dans de nombreuses émissions de télé. Il s'investit également dans différentes aventures entrepreneuriales. Depuis 5 ans maintenant, depuis 2014, Tae Chris est le fondateur et PDG de la société On-Off Telecom. C'est en fait une start-up devenue entreprise qui permet d'avoir deux numéros sur le même téléphone sans une deuxième carte SIM en utilisant une application qu'il a développée avec une équipe d'ingénieurs. Il arrive à lever pas moins de 15 millions d'euros en 5 ans pour développer cette entreprise, le tout en partant de zéro dans un domaine qui était complètement inconnu pour lui et il a pourtant réussi. Le profil de Tae Chris est vraiment intéressant car il a réussi en fait dans des domaines complètement différents en fait. Le roller à très haut niveau, l'entrepreneuriat, la création de plusieurs sociétés, il a réussi très bien également dans le monde de la télé. Et finalement, je ne peux m'empêcher de faire la comparaison de Tae Chris avec Arnold Schwarzenegger, qui a lui aussi été sportif de haut niveau et qui a réussi dans les domaines ultra différents par la suite, notamment en tant qu'acteur de cinéma à Hollywood et gouverneur de Californie. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode consacré à Arnold Schwarzenegger, l'un des précédents épisodes de ce podcast. Ainsi, je suis hyper admiratif par rapport à Tae Chris car pour moi, il fait partie de cette catégorie de personnes un peu hors normes qui arrivent à réaliser leurs rêves, à accomplir leurs objectifs, peu importe la concurrence existante, en partant de zéro, avec une capacité à se relever. Et je dois dire, c'est même le cas de le dire au sens propre, car en roller, en fait, Tae Chris a subi plusieurs blessures et nombreuses fractures. Donc, on a bien l'image de l'entrepreneur qui n'abandonne jamais, malgré la difficulté, malgré les échecs. Et non seulement... lui, il a vécu au sens propre, car quand on a une fracture, c'est clair que j'imagine, c'est ultra compliqué physiquement et mentalement de reprendre le sport à haut niveau et la compétition, mais il l'applique également de manière brillante dans ses aventures entrepreneuriales. Ainsi, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne aspirant à vivre la vie de ses rêves, et non à rêver la vie qu'on aimerait avoir, hein. Si vous écoutez ce podcast, vous faites sûrement partie de ces personnes-là. Je pense que ça vaut vraiment le coup de s'inspirer de Tae Chris, de sa façon de penser, de sa manière d'aborder les projets, de la vision qu'il a de la vie, de la manière de comprendre comment il a fait pour avoir un tel succès et que chacun de nous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que start-upper, qu'on puisse connaître la recette de la réussite selon Tae Chris, c'est que chacun à son niveau puisse s'inspirer et modéliser sa façon de faire. C'est pour ça que j'ai collecté en fait 8 grands principes qui caractérisent Tae Chris au cours de sa carrière sportive et au cours de son parcours entrepreneurial. Alors avant de vous dévoiler ces 6 clés de la réussite, je tenais à vous préciser que Tae Chris n'est pas seulement multiple champion du monde, animateur à succès ou entrepreneur chevronné, c'est aussi un recordman du monde. Il détient en effet 2 records complètement hors normes dans sa discipline qu'est le roller. Le premier, donc accrochez-vous bien, c'est le record du monde du saut dans le vide, qui a été réalisé le 29 mai 2010. Tae Chris établit en effet le record du monde du saut dans le vide en roller en s'élançant d'une plateforme située au niveau du premier étage de la tour Eiffel avec une chute de plus de 12,50 m à réception qui s'effectue sur une rampe géante de 30 mètres de haut. Alors vous avez toutes les vidéos sur YouTube, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est hyper impressionnant. Et le deuxième record tout aussi fou qui a été battu par la suite, mais il avait battu à ce moment-là ce record en 2011, c'est le record du monde du saut en longueur en roller. Il avait établi ce record en s'élançant après la prise d'élan depuis la basilique. Grande prise d'élan en fait réalisée sur une rampe au niveau de la basilique du Sacré-Cœur avec un saut d'une longueur de plus de 29 mètres. Là aussi, vous avez toutes les vidéos sur YouTube. Vous l'aurez compris, Taikri, c'est quelqu'un qui voit grand. Il accomplit des exploits et des prodiges dignes de Mission Impossible. C'est vraiment quelqu'un qui passe non seulement à l'action, mais qui bâtit chaque jour l'édifice de sa vie et des choses qu'il se donne les moyens d'accomplir. Sans plus attendre, voici les 8 grands principes qui caractérisent, selon moi, la réussite de Taikris. Le premier principe, c'est le fait de se dire qu'il est possible d'entreprendre dans des projets très différents et faisant appel à des compétences très variées. Souvent, on se limite, et c'est ce qu'on entend dire, hein, on nous conseille, voilà, de se limiter à 2 ou 3 thématiques maximum. Et Taikris, lui, nous montre que à l'échelle d'une vie, hein, et en plus il n'est pas très très vieux, déjà tout ce qu'il a fait c'est impressionnant, il nous montre qu'il n'y a pas vraiment de limite de nombre, la seule limite c'est l'imagination. Et donc j'ai intitulé ce premier grand principe, donne vie à tes idées, entreprendre dans de multiples projets très différents, c'est tout à fait possible, il faut juste passer à l'action, je vous laisse écouter.
J'ai eu plein de vies d'abord en tant que rider, mais très vite j'étais dans une optique d'essayer de réaliser plein de projets, etc. Alors au début j'étais dans mon sport, essayer de monter des boîtes un peu autour de mon sport, d'abord un magasin de roller, après j'ai commencé à fabriquer des skateparks pour les mairies, après j'ai acheté mes propres rampes pour faire mes propres shows, après me suis diversifié, j'ai fabriqué des gammes de papeterie et maroquinerie scolaire en grande distribution sous licence, donc j'avais acheté l'image par exemple de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. Et mon image évidemment. Et je vendais donc des agendas, des trousses, des cartables, des stylos, des corbeilles à papier à Carrefour, Leclerc, etc. Après j'avais monté une boisson énergétique comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France. Après j'avais failli lancer une gamme de biscuits chocolatés sous licence également. Donc voilà, j'ai toujours eu des boîtes en parallèle, mais c'était pas spécialement parce que j'avais envie d'être entrepreneur, c'est plus parce que j'avais envie que les choses avancent et j'avais envie de créer des choses et puisque personne ne le faisait, à la fin, j'étais obligé de le faire moi-même, quoi.
Le deuxième principe, c'est tout simplement la passion comme moteur, dans le sens où la passion pour son activité, le roller, l'a amené à se dépasser, mais aussi à avoir envie de la partager, de la promouvoir autour de lui et partout dans le monde. Je vous laisse découvrir justement ce qu'il entend par cette passion et le moteur de cette passion.
L'événement de la Tour Eiffel que j'ai coproduit, c'était pareil, c'était une façon bien sûr de réaliser un kiff personnel, mais aussi de montrer mon image et l'image du sport auprès du grand public en faisant un événement symbolique. C'est ça finalement qui m'a poussé à être entrepreneur.
Et oui, lorsqu'on est passionné par son activité, on est d'autant plus motivé, et c'est d'autant plus facile d'avancer même en cas de problème ou de difficulté. Dans la continuité, au-delà de la passion, il y a le rêve dont parle beaucoup Taikris, le rêve comme objectif, et j'ai intitulé le troisième principe, garde ton rêve en ligne de mire à l'horizon et avance chaque jour un peu plus vers lui.
Là, il y a bien sûr la stratégie que j'affine au fur et à mesure de la route, parce que quand tu démarres un projet, t'as une vision qui est un petit peu simple et finalement elle évolue au fur et à mesure de ta route et ce que tu avais prévu au départ, ça a changé. Mais le rêve reste le même. Le rêve est de devenir soit champion du monde, soit de sauter de la Tour Eiffel, soit de créer une boîte mondiale, etc. Donc c'est ce rêve qui me permet de me lever le matin.
Le quatrième principe, c'est celui de la constance, de la régularité dans le travail, l'entraînement et l'effort chaque jour pour y arriver, pour arriver au résultat souhaité au fur et à mesure des années.
Je vois cette route d'entrepreneur un petit peu comme un long, comment dire, parcours un peu dans le noir, donc t'as l'étoile au loin que tu suis, et ce qui est important, c'est de faire le maximum de pas au jour le jour, parce que en réalité, c'est la constance. C'est vraiment la constance dans les années qui va faire le résultat. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent, quand ils démarrent un projet, ils se disent « il faut que dans un an, je sois arrivé là ». Ils se mettent une limite au niveau temps. On ne connaît jamais la distance du projet dans lequel on se lance et on ne connaît jamais vraiment la difficulté. Moi, par exemple, quand j'ai lancé un œuf, bien sûr que je me disais au début « peut-être ça va prendre un an pour mondialiser la boîte », mais c'était complètement amateur et je préférais ne pas y penser. Et si ça devait prendre 5 ans, ça prendrait 5 ans. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Quand je me suis lancé pour devenir champion du monde de roller, si on m'avait dit qu'il allait me falloir 20 ans pour devenir champion du monde, ça m'aurait sûrement démoralisé. Donc en fait, le conseil souvent que je donne là-dessus, c'est de ne pas penser à la longueur, mais juste de faire le maximum au jour le jour. Et le temps que ça prend, bah, c'est le temps que ça doit prendre et c'est tout, quoi.
Le cinquième principe, j'ai intitulé « Ne baisse pas les bras, relève-toi à chaque fois. Même quand tout va mal, pivote, remets-toi en question et avance de plus belle. »
Il y a eu quand même des hauts et des bas. Et il y a 5 ans, c'était un moment, on va dire, un peu de changement dans ma vie parce que j'arrivais pas à obtenir les autorisations pour les différents records que j'avais fait. En tout cas, j'avais fait Tour Eiffel, Sacré-Cœur, mais je voulais en faire d'autres. J'avais pas eu les autorisations et je m'étais cassé la jambe. Je m'étais séparé de ma copine. Je suis arrivé à 40 ans. Je me suis dit bon ben, c'est un moment un peu où il faut se réinventer. J'avais un film que j'avais écrit, que j'avais essayé de monter à Hollywood, qui s'était pas fait, etc. Donc c'était un moment où finalement tout s'écroulait un petit peu autour de moi. Et je me suis dit il faut que je me lance dans un nouveau projet de création d'entreprise ou de projet en tout cas. Mais je me suis dit je vais pas aller dans le monde du sport et du roller. Je vais complètement vriller et aller sur le monde de la technologie que j'aimais bien. Et voilà, je suis parti là-dessus. Alors moi, j'ai vraiment cette chance de jamais être down, en tout cas psychologiquement, où vraiment, je crois que je l'ai été maximum 3 jours dans ma vie, quand j'avais justement sur le lit d'hôpital, quand vraiment je m'étais cassé la jambe. Et à chaque fois que je suis down, dans des moments où vraiment tout s'effondre, j'ai besoin de me rattacher à un nouveau rêve. Et à partir du moment où j'ai ce nouveau rêve en tête, tous les problèmes sont effacés et je repars à 100%. Les gens ont tendance à se poser beaucoup trop de questions. J'ai la chance de, justement, de toute façon, je me dis quand on est au pied du mur, il y a deux façons. Soit tu es là à te casser la tête et à déprimer, à pleurer, on va dire, au pied de ce mur. Soit tu vas de l'avant et voilà, et tu essaies continuellement de le dépasser, quoi.
Et oui, le rêve comme moteur peut se révéler très puissant pour repartir de plus belle et c'est vraiment ça l'idée. Derrière ça, on a aussi l'idée de ne pas se laisser arrêter par la difficulté apparente d'une idée ou d'un projet, même si c'est quelque chose qui demande des compétences spécifiques. Taïkris n'a pas ce problème du syndrome de l'imposteur qu'on retrouve souvent chez le commun des mortels. Il part du postulat tout simplement que tout est possible avec l'envie et le travail pour y arriver. Le sixième principe concerne la rapidité à laquelle on passe à l'action. Et chez Taïkris, le timing entre l'idée, la réflexion et l'implémentation de l'idée dans la vie réelle est extrêmement court. J'ai intitulé ce principe « Ne te pose pas trop de questions, ne réfléchis pas trop, passe à l'action chaque jour pour concrétiser tes idées et tes projets. »
Souvent, ce que je vois chez les entrepreneurs, et ça peut être chez moi aussi, tu vois, c'est qu'il y a un blocage à se mettre à faire les choses entre la prise de décision et le moment où tu fais vraiment le truc. T'as pas ce blocage ?
Moi, j'ai pas ce blocage. En fait, parce que j'ai eu, je pense, de par mon éducation, j'ai eu une éducation très particulière parce que mes parents ne m'ont jamais scolarisé. Donc, quand je dis jamais, ils n'ont même pas une journée en maternelle de toute ma vie. Et donc, finalement, vu que j'avais aucun diplôme et j'ai jamais appris les choses d'une façon conventionnelle, j'ai appris un côté à être extrêmement débrouillard. C'est-à-dire que puisque je n'avais jamais appris d'une façon conventionnelle, fallait que à chaque fois je trouve moi-même mes solutions et surtout c'était toujours mes choix. On m'a jamais poussé à faire quelque chose, ça a toujours été mes propres choix et mes parents m'ont soutenu là-dessus. Donc en fait, dès que j'avais un projet en tête, je me pose même pas la question si c'est difficile ou quoi que ce soit. Il y a justement beaucoup de gens qui sont en train de se casser la tête à dire mais est-ce que ça va être possible? Est-ce que voilà, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul et en général l'entourage t'assomme avec des problèmes qui te dit bah t'as pas d'argent, t'es tout seul, t'y connais rien, etc. Moi tout ça, je me pose jamais ces problèmes. J'ai juste le rêve au loin de me dire c'est possible à réaliser ce rêve incroyable et je me concentre juste au jour le jour d'abattre le maximum de problèmes finalement. Et tant que j'avance, tant qu'à la fin de la journée j'ai abattu une énorme somme de problèmes, ça me va avec le rêve au loin quoi. Donc j'ai jamais de déprime en quelque sorte, je peux jamais avoir de coup bas puisque je vois jamais les problèmes à plus de 24 heures et j'ai toujours le rêve au loin de l'étoile que je suis.
Le septième grand principe, il faut s'associer et rassembler les décideurs pour être plus fort. C'est le principe du partenariat, celui du gagnant-gagnant, celui où tout le monde s'y retrouve comme une symbiose en identifiant des convergences dans le but d'être plus fort et de réaliser ses projets. Ici, Taïkris donne un exemple, l'exemple de l'événement qu'il a organisé avec le record du monde au pied de la Tour Eiffel, où il a dû faire une alliance avec les autorités et les politiques en place pour avoir tout simplement des autorisations.
La Tour Eiffel, c'était quasiment la mission impossible. Obtenir du gouvernement français qui prête la Tour Eiffel à un individu pour qu'il se jette en haut de la Tour Eiffel, c'est quelque chose normalement qui n'existe pas. Parce que on peut juste, à juste titre, imaginer que après cet événement, il y a eu des milliers de boîtes d'événementiel ou des milliers de sportifs qui ont appelé le gouvernement français et qui ont dit « Mais attendez, vous avez donné la Tour Eiffel à Taïkris, pourquoi pas moi ?» Donc il y a une équité qui doit être difficile et le fait que le gouvernement m'ait donné cette chance, ça a été très 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 dur. C'est à chaque fois un côté humain, que bien sûr technique, il fallait que l'événement rentre dans la technique, mais il y a eu beaucoup un côté humain où il fallait que j'arrive à convaincre d'une façon inespérée les gens. Quoi.
Comment ça s'est passé du coup pour avoir la Tour Eiffel justement ?
Pour avoir une autorisation comme ça, il faut comprendre que tout le monde doit signer. S'il y a une personne qui ne signe pas, l'événement ne se fait pas. Donc, c'est-à-dire
c'est qui tout le monde ?
Le président de la République, le maire de Paris, le maire d'arrondissement, le président de la Tour Eiffel, les Verts, les architectes bâtiments de France, la préfecture de police. Donc, tu as toutes les institutions françaises qui doivent donner leur accord. Et il y a des aspects techniques, des aspects politiques, etc. Et des aspects sécurité, des aspects qui sont très, très durs parce que, quand, par exemple, on a le maire de Paris qui signe en bas de la page, si moi je me tue en direct devant 100 000 personnes, c'est en quelque sorte sa responsabilité. Parce qu'il a donné l'autorisation, il peut quasiment perdre sa place par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'était très 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 dur d'arriver à convaincre tous ces gens de monter l'événement, trouver le budget, monter une équipe de 100 personnes, etc.
Comment tu les as convaincus ?
Alors, évidemment, il fallait répondre à un cahier des charges technique extrêmement précis. L'aspect technique sur l'événement, construction de la rampe, etc. Les aspects de pas mettre de logo, il y avait plein de choses comme ça. Mais à la fin, c'est de les avoir mis à bord de mon train au niveau passion et d'avoir fait comprendre au gouvernement qu'en me donnant cette autorisation, ils allaient avoir une image de la France qui allait rayonner dans le monde d'une façon jeune et nouvelle et que c'était pas un saut juste d'un sportif qui a envie de se faire un kiff perso, c'était vraiment une image symbolique qu'il est possible de faire de grandes choses en France et qu'on peut aller au bout de ses rêves et que les Français ont la possibilité de faire des choses plus grandes que les Américains ou ce genre de choses. Voilà. Et donc c'est cette profondeur plus grande qui les a fait finalement craquer en quelque sorte.
Enfin, le huitième principe, il s'agit d'un check-up complet, d'une checklist de 8 points à valider selon Taïkris, avant de lancer un projet qui a une chance, selon lui, de réussir au niveau mondial. Donc avant de poursuivre, je vous invite à mettre pause sur l'épisode du podcast et prendre un papier et un crayon pour prendre des notes et pouvoir vous en souvenir, car moi, ces 8 points-là de checklist m'ont paru vraiment très très intéressantes. J'ai déjà pratiqué pour moi et c'est vraiment excellent. Donc voici les 8 points selon Taïkris.
En fait, sur mon lit d'hôpital, quand je m'étais cassé la jambe donc il y a 5 ans, je me suis dit, je vais me lancer donc dans un nouveau projet d'entreprise et j'ai noté ce que j'appelle en quelque sorte ma formule magique pour créer le nouveau projet. Et donc, j'ai noté 8 points, un par un, et je me suis dit, ma nouvelle idée doit rentrer dans ces 8 points. Alors, le point numéro 1, c'était de créer la plus grande industrie, de me lancer dans la plus grande industrie au monde. Parce que j'étais frustré d'être toujours dans une petite industrie avec le monde du roller, finalement. Il fallait que je sois beaucoup plus proactif que les autres, beaucoup plus ingénieux pour sortir mon épingle du jeu. Donc, je me suis dit, je vais pas faire deux fois la même erreur. Mon prochain projet sera dans une industrie qui sera la plus grande au monde. Je serai peut-être pas le champion du monde là-dedans, mais même si je suis centième mondial dans le monde des télécoms, ça va être une énorme boîte, voilà. Donc, je me suis dit, télécom, là-dessus, au moins, je suis sûr de pas me gourer. Deuxième point, je me suis dit, il faut ubériser cette industrie, comme ça, c'est la grande phrase que tout le monde dit. Mais c'est-à-dire, quand je disais ubériser, c'est-à-dire d'essayer de devenir le plus grand de cette industrie sans être propriétaire des actifs. Comme Uber, qui est le plus grand réseau de taxis sans être propriétaire des voitures, Airbnb, le plus grand réseau d'hôtels sans propriétaire des murs. Et je me suis dit, est-ce que je peux devenir le plus grand opérateur télécom mobile au monde sans être propriétaire des antennes et utiliser finalement le réseau sans le payer, comme fait Uber qui ne paye pas les voitures ou Airbnb qui ne paye pas les murs. Okay ? Donc, je ne savais pas si c'était possible, mais en gros, je suis parti là-dessus. Donc, la plus grande industrie au monde, ubériser cette industrie. Troisième point, je me suis dit, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu inventes quelque chose qui est simplement plus simple pour les gens, ça va marcher. Alors, on le voit bien, je prends toujours cet exemple d'Uber, le fait qu'on a déjà rentré sa carte bleue, on reçoit la facture après, la voiture arrive, l'expérience utilisateur.
Gagner du temps, gagner de l'argent, ça marche toujours.
Voilà. Ouais. Quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que j'avais, dans certaines de mes anciennes vies, comme je disais tout à l'heure, des gammes de papeterie scolaire, et j'avais eu, par exemple, l'image de Tony Parker. Et quand j'avais eu l'image de Tony Parker, ça se vendait très très bien en France, sauf qu'au bout de 3 ans, j'ai perdu la licence Tony Parker, ça fait un trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, pas deux fois, il faut que je sois propriétaire de ma marque à vie, comme ça je peux la vendre voilà, dans le monde entier. Et le cinquième point, je me suis dit, il faut que ce soit une marque qui est vendable dans le monde entier. Parce que Tony Parker était un bon exemple, ça se vendait bien en France, mais au Japon, non. Okay. Donc il fallait que je trouve le Tony Parker japonais en quelque sorte, ce qui était compliqué. Donc je me suis dit, il faut trouver en cinquième point la marque que je vends pareil dans le monde entier. Le sixième point, je me suis dit, il faut que je trouve un réseau de distribution qui soit facilement mondial. Parce que je le voyais pareil dans les gammes de papeterie, il fallait que je sois référencé à Carrefour. Donc c'était un mal de tête, laisse tomber, c'était très très dur d'être référencé à Carrefour, Leclerc, Casino en France. Et quand je voulais vendre aux États-Unis, bah, c'était la même chose, il fallait que je rentre chez Walmart, etc. Donc avant de mondialiser ton produit, il faut s'accrocher parce qu'il faut rentrer dans toute sa grande distribution. Le septième point, c'est ce qu'on appelle cette scalabilité. C'est-à-dire que je le vois bien, par exemple, quand on prend l'exemple d'un café Starbucks, dans la fin d'une journée, ils vont jamais pouvoir vendre des millions de cafés. Ils vont être limités parce qu'il y a des horaires, parce qu'il y a des jours de la semaine, etc. Leur seul moyen de vendre des millions de cafés, c'est d'augmenter les frais en ouvrant de nouveaux Starbucks. Alors que quand on prend l'exemple, par exemple, d'un Spotify, le Spotify, ils peuvent vendre à 3h du matin et ils ont les mêmes frais de structure et le même nombre de salariés et ils peuvent vendre des millions finalement d'abonnement. Donc je me suis dit, non seulement il faut que j'ai cette distribution mondiale, mais il faut que ce soit une distribution qui puisse se vendre avec le même nombre d'équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limitation en termes de nombre. Donc quelque chose de vraiment scalable. Et l'huitième point, qui est le plus simple à dire et qui est finalement le plus compliqué à trouver, c'est que clairement il faut inventer quelque chose qui n'existe pas.
Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast. Si c'est le cas, mettez une petite note 5 étoiles avant de quitter l'application du podcast et laissez un commentaire sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi me contacter par email à l'adresse podcast.lfa@gmail.com pour me dire ce que vous appréciez sur le podcast, pour me dire si vous souhaitez avoir davantage de podcasts à base d'immobilier, de business en ligne, de mindset ou d'études de cas un peu comme celle-ci. Ou alors tout simplement des questions-réponses avec vous, vous pourrez me laisser. Merci pour votre participation, faites-le maintenant avant d'oublier. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.